Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table, comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission qui, jusqu'à 12h30, vous propose un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau proposée aujourd'hui par Emmanuelle Emery. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Caroline.
Rédactrice en chef adjointe de Madame Figaro, qui sort un hors-série cuisine dont nous sommes partenaires. Alors, de quelle cerise sur le gâteau allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous parler des chefs qui cultivent leur potager.
À tout à l'heure, 12h25. Chère Natacha Triou, vous êtes là également. Bonjour Natacha.
Bonjour Caroline.
La Madeleine II, le souvenir gustatif de quelle personnalité aujourd'hui ?
De la comédienne, réalisatrice et metteur en scène Zabou Breitman.
Eh bien, à tout à l'heure, 12h15. Et pour commencer, portrait d'un chef triplement étoilé et élu meilleur chef par le Goemio en 2016. Il est passé par les cuisines de Taïwan, du pavillon Le Doyen pendant 18 ans ou du Ritz encore avant de prendre les rênes en 2014 du restaurant Le 5, installé au sein du palace parisien, le Georges V. Christian Lesquer, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Ces Bonnes Choses. Je le disais triplement étoilé, il y en a eu beaucoup plus que trois en fait, si on doit les additionner dans votre passage au pavillon Le Doyen, où vous êtes donc resté 18 ans. Qu'est-ce qui fait une expérience de chef ? Est-ce que c'est justement le temps passé quelque part ?
Je crois qu'un chef, pour réussir dans une entreprise, faut qu'il reste au minimum 5 ans. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il met une méthode de travail, il va lier des équipes de façon à pouvoir fidéliser les clients. Et je suis resté 18 ans au pavillon Le Doyen. Pourquoi ? Parce que finalement, j'étais actionnaire de ce pavillon. Et sans le vouloir, je suis arrivé en 99. En 2000, j'ai mis 2 étoiles. Et en 2002, voilà la 3e étoile où je suis resté exploité depuis 2014, de 2002 à 2014. Et finalement, vous aviez ce Fort Saison Hôtel Georges V Paris qui cherchait à avoir 3 étoiles. Ils sont venus me chercher en disant « on voudrait bien avoir 3 étoiles dans ce restaurant Le 5 pour briller partout à l'international ». Et c'est vrai que j'avais pris un contrat comme un footballeur. En 12 mois, il fallait avoir 3 étoiles.
Waouh.
Donc, il ne fallait pas dormir.
Paris tenu.
Mais c'était vraiment, je crois que je n'avais pas bien réfléchi quand j'ai signé ma feuille de route. Mais on a réussi. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la cuisine, on a mis une stratégie de travail. Cette stratégie, je voyais un peu mes défauts finalement. Je ne savais pas communiquer. Et surtout, je ne savais pas faire savoir qu'on travaillait bien dans cette cuisine. Donc, j'ai pris un attaché de presse, un chargé d'images, qui s'occupait des images de grand patron. Donc, il a trouvé une image pour que je puisse raconter une histoire de ma cuisine. Parce que la cuisine, on raconte des histoires.
Et oui, on ne fait pas que chercher à avoir des étoiles quand même.
Non, mais on raconte une histoire de l'ADN où on est né, en disant que moi, j'ai appris à faire de la cuisine dans un bateau.
Oui, c'est ça. Vous aviez 14 ans, vous étiez sur un chalutier, c'est là que tout a commencé. C'est pas banal, hein, Christian Lesquer.
Si, parce que je suis breton. Donc, c'était banal l'année. Vous savez, quand vous vous retrouvez avec vos enfants, pendant 2 mois, ils ont des vacances, qu'est-ce qu'on va faire pour les occuper ? Et j'avais un oncle qui était armateur et puis qui partait à Terre-Neuve pendant 10 jours. Et je l'ai accompagné. Et c'est là où je suis tombé amoureux de la cuisine et de l'aspect social entre le commandant, le moussaillon que j'étais, il y avait une ambiance. Et je crois que j'ai aimé l'ambiance de la popote qui se faisait dans les bateaux.
Mais c'est vous qui faisiez la popote ?
Ah non, il y avait un cuisinier.
Vous accompagniez le cuisinier à ce moment-là ?
Oui.
Ou vous le regardiez faire ?
Je le regardais. Au lieu de moussaillon pour apprendre comment on levait le filet, j'allais simplement apprendre comment on faisait la tarte aux pommes, vous voyez ? C'était différent. Et surtout l'ambiance qu'il y avait du repas, entre 2 filets, comment ils pouvaient manger, et puis la joie.
En dehors du poisson, parce qu'on pense Bretagne, on pense mer, on pense poisson. En dehors du poisson, quel souvenir culinaire de Bretagne avez-vous ?
Ah, on aimait bien les potées, finalement. Un bon morceau de cochon bien caramélisé, une poitrine de cochon bien grillée.
C'est voilà, vrai qu'en Bretagne,
bon,
aussi le cochon.
C'est bon, voilà. Finalement, on était dans les plats très simples. Mais j'ai eu une éducation, j'étais en fin de compte dans un endroit qui s'appelle la rivière d'Étel. Et dans cette rivière d'Étel, entre la terre et la mer, les produits étaient bons. Ça veut dire que tout le monde avait un jardin, un potager. Donc, on cultivait des légumes. Donc, c'était naturellement, je me rappelle toujours, ma mère se levait de bonne heure avant que le soleil se levait pour aller chercher la salade, pour qu'elle croque sous la dent. Parce que, je crois, elle disait toujours, oui, mais quand le soleil va se lever, elle va ramollir. Donc, il y avait toujours la rosée du matin pour raffermir les légumes. Et voilà comment l'éducation du bon goût que j'ai eue.
Le bon goût, c'est aussi donc le bon produit. Le bon produit, c'est nécessairement, Christian Lesquer, un produit de saison, un produit frais, un produit local. C'est quoi pour vous le meilleur produit?
Alors, je vais vous dire, quand vous êtes à Paris, on essaie de sourcer nos produits le plus naturellement possible. On va essayer d'avoir les maraîchers d'Île-de-France, de travailler dans des circuits courts. On va essayer de travailler dans une pêche locale, on va dire, qui nous arrive directement. Je m'entends par là.
Peut-être pas de la Seine.
Non, pas locale, je m'entends, mais vous savez, des îles normandes, en fin de compte. Nous avons des petits fournisseurs qui viennent nous livrer parce que leurs maris vont pêcher le homard, des crustacés, puis ils nous livrent dans la journée. Par exemple, là, en cette période de l'année, nous sommes dans l'araignée. Cette dame nous livre des araignées vivantes qu'on peut conserver 3 jours dans nos maisons. Donc, vous voyez, on essaye de sourcer nos produits de façon à ce qui est normal pour nos clients, de donner toute l'élégance de ces matières premières.
Vous parlez, Christian Lesquer, de ces clients. Qui sont-ils, ces clients d'un palace comme le Georges V? Est-ce que c'est une clientèle très spécifique, très particulière, qui a des demandes spécifiques et à laquelle vous êtes finalement obligé de vous adapter?
C'est quoi un palace? Déjà, c'est plusieurs points de vente. On a 3 restaurants. Nous avons un restaurant qui a 3 étoiles au guide Michelin. Nous avons 2 autres restaurants qui ont 1 étoile. Vous avez le Georges qui est la cuisine de la Méditerranée. Et là, nous venons de sortir un nouveau restaurant qui s'appelle l'Orangerie, qui est plutôt autour du végétal et du poisson, où on essaie de raconter l'histoire de la haute couture du légume et ainsi du poisson simplement préparé avec un goût de voyage. Et voilà, c'est un petit jardin où on a un petit atelier où on fait entre 15 et 20 couverts, vous voyez, c'est du sur-mesure. Et après, vous avez la partie 3 étoiles où là, c'est le recherche et développement de la saveur. Comme un parfumeur, comme un couturier, tous les jours, vous avez 2 personnes qui font des recherches sur les saveurs. Sur le produit, c'est normal que lorsqu'on fait venir des produits dans une grande maison qui s'appelle le Georges V, c'est des produits extrêmement frais, avec une qualité de la farine qu'on peut faire notre pain. Ah, on va dire...
Si c'est bien dans un palace, on a tout à disposition, on fait tout sur place. On peut faire tout sur place.
Tout est transformé. Ça veut dire que tout produit arrive brut, tout produit est transformé. Ce qu'il faut savoir dans ce lieu, qui est un lieu où on a 650 employés, vous avez 135 personnes en cuisine qui transformons le produit entre le boulanger, le boucher, le poissonnier et tous ces corps d'État finalement qui viennent donner de l'élégance à un produit brut. Et c'est pour ça qu'on met des cellules de développement pour créer des grands plats.
Et le chef, Christian Lesquer, c'est comme un chef d'orchestre? D'un grand ensemble.
Oui, ou alors comme un architecte, parce qu'un architecte, finalement, on va dire, doit travailler avec tous les corps d'État, mais c'est côté culinaire, mais c'est aussi avec le service de la sommellerie. Faut que l'ensemble soit cohérent. Et c'est toujours donner un mouvement dans ces gens qui vont du monde entier. Vous avez le petit jeune qui va venir casser sa tirelire parce qu'il voudra aller dans un endroit très luxueux où le fleuriste aura fait des bouquets de fleurs, mais hors normes. Vous avez ce côté international qui va arriver de différents pays et c'est à vous de créer une émotion dans la sienne. Et c'est là, vous allez vous passer en voir en salle des clients qui viennent d'un univers mais totalement différent, avec des religions totalement différentes. Et c'est à vous en disant, mais c'est ça l'art de vivre à Paris. Parce qu'on a apporté dans ce palace de l'artisanat. Et je crois, au-delà de tout ça, vous avez beaucoup d'artisan, et puis moi, je suis l'architecte. J'essaie de travailler tous ces corps d'État de façon qu'ils passent un moment uni, où le temps s'arrête.
En même temps, vous êtes dans un palace a des codes, des conventions qu'il faut respecter.
Pas du tout.
Pas du tout, vous ne le ressentez pas comme ça?
Non, parce que quand vous êtes dans un groupe qui s'appelle le Georges V, on vous laisse en disant, mais si les clients sont contents, c'est ça qu'on veut. Les codes sont dans les... plutôt dans, côté hôtel, mais pas côté restauration. Finalement, on s'adapte, comme on a 3 points de vente, on s'adapte finalement aux clients. Et je crois que ce qui fait la valeur, c'est la valeur des hommes. Ça veut dire que de l'accueil jusqu'à être conduit, les gens sont gentils. Et les gens, je crois que le luxe de demain, c'est la gentillesse dans ces lieux unis. Prendre le temps avec les clients.
Christian Lussière, vous parliez du sur-mesure, de la haute couture ou même du parfumeur. Eh bien justement, je voudrais vous proposer d'écouter une rencontre entre un nez, le nez d'Hermès à cette époque-là, on est en 2011, et un grand cuisinier, Alain Passard pour le cuisinier, Jean-Claude Héléna pour le nez. Écoutez.
Le goût est important aussi dans des accords surtout légumiers. Mais c'est intéressant aussi de savoir que une betterave rouge peut avoir un mariage avec l'oseille rouge, par exemple. Et au-delà de tout ça, on va même plus loin, je dirais, c'est que le nez parvient à corriger les assaisonnements et à modifier, à améliorer, à ou parfois à abandonner si les accords ne sont pas beaux dans les senteurs. Mais c'est une école que moi j'essaye d'enseigner à l'arpège, à mes jeunes collaborateurs. C'est de ne surtout pas oublier un de nos sens qui est déterminant, qui est le nez, quoi. Je pense qu'on n'en parle malheureusement pas assez dans les écoles hôtelières. Il faut absolument qu'on faire prendre conscience à toutes ces jeunes cuisines que, ben, il y a le goût, bien sûr, il faut goûter ces plats, mais il faut aussi apprendre à les sentir.
Il a raison de dire de l'importance de l'odeur, parce que la séduction vient d'abord de l'odeur, parce que ce qu'on a dans l'assiette, c'est la première chose, c'est l'odeur. Alors, ce que moi je vois et ce qui m'attriste souvent, c'est les gens ne prennent pas le temps de sentir. Mais mon père nous avait éduqués avant de manger ou de boire, c'était de respirer et de prendre quelques secondes pour apprécier l'odeur. Et je me souviens d'une liberté que j'ai prise parce que en sentant une fleur à la Réunion. Et parce que cette fleur sentait la farine, en rentrant en France, j'ai créé un parfum qui sent la farine, qui s'appelle bois farine. D'un seul coup, c'est puisqu'une fleur peut sentir la farine, alors un parfum peut sentir la farine.
L'odeur, c'est important. Je suis désolée, vous êtes enrhumé aujourd'hui, donc oui. Le nez est un peu bouché, mais l'odeur, c'est important pour
vous. Je vais vous raconter mon histoire qui est très simple. Mon épouse a fait une école l'ISIPCA. L'ISIPCA, c'est l'école de parfumeurs à Versailles. Donc, je trempe dans ce milieu depuis maintenant l'âge de 20 ans. Et je me rappelle toujours qu'elle faisait ses études, elle devait sentir une vingtaine d'odeurs. Et c'est moi qui étais son professeur en lui mettant ses mouillettes. Et quand je fais la cuisine, ben c'est pareil, on sent la matière première. On goûte la matière première accrue, parce que c'est mon ADN d'enfance. Donc justement, c'est comme ça qu'on travaille comme dans la cosmétique. On fait des recherches pour trouver déjà le bon produit avec des belles odeurs. Je prends par exemple, quand vous avez un bon légume qui vous arrive de Yamashita, vous savez, la star de la haute couture des légumes, il vous fait goûter à cru. Donc il dit, mais mes légumes, il faut très peu les transformer parce que vous allez les dénaturer. Ben, c'est comme un parfumeur qui va aller sourcer ses matières premières à grâce. On est pareil, nous c'est pareil, on essaye de sourcer le poisson qui va bien sentir l'iode, qui sera frais, qui aura une odeur marine. Et c'est à nous de raconter des histoires d'odeur dans les assiettes. Et vraiment, on a le même métier.
Vous parlez de recherche depuis tout à l'heure, recherche et développement, même dans ce 3 étoiles au Georges V à Paris. Qu'est-ce que vous cherchez à provoquer chez le client? Vous cherchez plutôt à le chouchouter dans son palais ou à le bousculer un peu avec de la nouveauté?
Moi, mon rôle, finalement, je pars des bases françaises parce que bon, par rapport, maintenant, ça fait déjà 18 ans que j'ai 3 étoiles au guide Michelin. Donc, j'essaie de partir sur les bases et sortir des modernités de saveurs. Et des mariages un peu inhabituels et que le palais est agréablement surpris. En disant, on va marier deux saveurs ensemble et ça va vous donner une saveur qu'ils n'ont pas l'habitude de déguster.
Par exemple ?
Par exemple, je vous dirais, on marie une eau de pamplemousse avec un petit pois légèrement sucré à l'huile de d'aneth. Vous voyez ? Mais on ne va pas tuer la matière première, ce côté sucré du petit pois qu'à l'heure actuelle. Ou alors, on va définir une douceur de marine, provoquer cette odeur marine. On va mettre notre poisson, par exemple, dans une saumure pour le renforcer en sel. Et après, on va le faire snacker de façon que l'humidité de l'eau salée vient nourrir toute cette chair. Et donc, on va le marier avec peut-être quelque chose qui va le réveiller avec du piquant. Et c'est ça que l'amertume, faut pas oublier l'amertume dans la cuisine, toute cette petite palette de saveurs que le cuisinier peut avoir, ou de la levure. Donc, on va provoquer le palais, mais provoquer un peu dans l'élégance. C'est un peu comme le tailleur Chanel qui peut se porter avec un jean. Vous le savez, la veste Chanel avec un jean, ça va très très bien. Donc nous, c'est pareil, on va prendre un produit, on peut prendre un petit produit et lui donner beaucoup d'élégance.
Vous parlez de Chanel, et bien on va entendre la voix de celui qui fut longtemps le grand couturier de Chanel, Karl Lagerfeld.
Je ne sais même pas comment on cuit un œuf. Pour moi, le summum de faire de la cuisine, c'est ouvrir la porte du frigidaire.
Restez bien sûr avec nous, Christian Lesquer. C'est l'heure d'écouter la Madeleine 2, faite par Natacha.
On écoute Zabou Bretman ce midi. Sa Madeleine est une friandise célèbre au Canada, si célèbre qu'il existe même un proverbe. Le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. Quand on en veut, on s'en fait.
Alors, qu'est-ce que ce serait ? Oh, ça serait un truc très particulier et je ne sais pas si ça dirait quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça s'appelle au Québec, parce que ma mère était québécoise, ça s'appelle du sucre à la crème. C'est une sorte de caramel, de toffee qui est fait à base de sirop d'érable et de crème. Et ça me rappelle ma grand-mère qui envoyait en France des petits paquets avec les petits carrés de sucre à la crème. Qu'on prononce au Québec des sucres à la crème et j'aimais bien ça les sucres à la crème. Le paquet a été fait par une dame qui mettait ça dans un petit carton avec une petite ficelle. Il y avait les petits carrés, ça se présente comme des carrés de, on va dire, comme des caramels. Assez épais, c'est très tendre, hein. Ça, c'est pas du tout comme collant comme du caramel. Et donc le paquet arrivait par la poste au bout de je sais pas combien, un mois, mais à peu près un mois, trois semaines, un mois. Et en l'ouvrant, de découvrir tous ces petits carrés qui avaient été faits par elle. Donc il y avait sa main aussi, la main de ma grand-mère qui fabriquait tout ça. Enfin, c'est beau quoi.
Ma grand-mère me disait toujours, sucre à la crème, faut que ça boue exactement 5 minutes. 4 minutes 20, c'est bon à rien. Donc, une fois que ça boue, on part à la minuterie, puis on attend. Combien de temps? 5 minutes.
Et c'était, je le mangeais très lentement, très, très, très lentement, tout petit bout par tout petit bout. J'attendais qu'il fonde le premier bout, puis le deuxième. J'allais tout doucement, tout doucement. Et chaque petit morceau était un moment de paradis, parce que c'était ma grand-mère que j'aimais énormément. C'était la façon de partir là-bas. Le sirop d'érable, le beurre de cacahuète, du beurre de peanut. Eh ben, je mangeais ça, du beurre de peanut, puis du sirop d'érable. Et donc, voilà. Et c'est un truc complètement dingue quand j'essaie de ne pas en manger trop, parce que je peux en acheter. On en achète parfois au duty free, là, à Montréal. Alors, quand j'en mange maintenant, le problème, c'est que. Alors, j'ai demandé à ma tante la recette, elle ne veut pas me donner. Non, mais c'est en rêve. Je lui dis, bon, enfin, tu peux me la donner quand même. Et elle ne veut toujours pas me la donner. Et je suis un peu embêtée parce que ceux que je trouve n'ont pas le même goût. Et j'aimerais bien avoir la vraie recette.
Le bonheur, c'est comme un sucre à la crème. Christian Lesquer, vous aviez des velléités, fut un temps de devenir pâtissier. Mais le temps en pâtisserie, c'est quand même très très compliqué. On l'entendait là dans la Madeleine de Zabou Bretman. C'est pour ça que vous n'êtes pas devenu pâtissier ?
Oui, j'ai pas aimé la pâte. Non, j'aime la pâtisserie. C'est très gourmand, hein. Je veux dire, la gourmandise en sucré. Je suis vraiment très gourmand. Mais ça me dérangeait, c'était. Tout était bien pesé. Et surtout, le sucre me dérangeait sur les doigts. Donc, je me suis dit, j'ai fait un stage en pâtisserie, j'aimais bien, mais je préférais la liberté d'un palais. Cuisiner, réduire le feu, la cuisiner, voilà, ces matières premières qui changeaient tous les jours, que la pâtisserie qui était plutôt bien précise. Moi, je suis.
Trop millimétré.
Je ne suis pas précis. Puis, j'arrive de la nature, moi. Je me rappelle toujours quand j'étais petit, justement, j'allais la pêche à pied. Dans cette rivière pour me faire un peu d'argent, puis on mangeait ce qu'il y avait dans la mer. Donc j'aimais ce côté salé, ce côté naturel des matières premières. Tandis que la pâtisserie, tout était bon, tout était bien fait. Donc j'ai fait un stage en pâtisserie à Paris, j'avais 12 ans. C'était tellement bon que, bon, j'étais tellement gourmand, mais c'était trop précis. C'était pas fait pour moi parce que je pense aussi mon père était ébéniste. Et ébéniste, c'est toujours être précis. Et moi, j'aime ce côté un peu. Liberté.
Que vous retrouvez dans la gratinée d'oignons à la parisienne, qui est quand même votre plat fétiche.
Et vous voulez que je vous raconte l'histoire de la
gratinée?
Allez,
volontiers.
Finalement, quand je quitte le doyen, tous les journalistes me disent « Qu'est-ce que vous allez faire au Georges Saint ?» Moi, je dis « Moi, je vais faire ce que je sais faire, de la popote. » Mais qu'est-ce que vous allez faire comme plat? Je dis « Bon, on va faire comme dans tous les palaces, on va refaire de la soupe et on va faire de la gratinée à l'oignon. » Mais quand je commençais à prendre une fonction, je me suis dit « Mais t'as trop parlé, Christian. » Donc, faut t'atteler maintenant. Et donc, j'ai redessiné une gratinée à l'oignon sur une assiette plate. avec des petits modules. Quand ils viennent éclater en bouche, vous avez toute cette saveur et l'élégance de cette gratinée, mais sans avoir le bouillon, qui a un visuel unique. Et justement, et on le sert avec un petit verre de Madère. Et vous voyez, la vie est belle.
La vie est belle, mais elle n'est pas belle pour tout le monde, Christian Lesquer. On va aborder quelques sujets qui fâchent. C'est que votre gratinée d'oignon, elle est à 70 euros. C'est normal, on est dans un palace. Et c'est peut-être pour cette raison que vous, avec d'autres grands chefs, vous avez choisi de participer au Grand Palais à Paris, à un festival qui s'appelle Taste of Paris et qui a pour ambition de rendre accessible à un budget raisonnable quelques plats de chefs étoilés, dont vous donc. Est-ce que c'est pour cette raison que les choses se s'ouvrent un peu plus ?
Je crois que la gastronomie va vers les clients. Je crois que pour une raison, on est très fiers justement de faire plaisir à des gens qui ne peuvent pas accéder dans notre restaurant. Et je pense que cette petite réunion, on veut montrer aussi que on est près du public, on a un public parce qu'on se retrouve dans les réseaux sociaux, on leur montre nos créations et montrer la saveur de nos créations, je trouve que c'est bien. C'est très bien cette petite réunion. Et justement, je voulais montrer la dernière création, les galets de foie gras. Donc ça va être
entre 5 et 12 euros, hein, je crois que c'est à peu près les
c'est
prix
ça,
de,
oui,
de
c'est
chaque
entre, plat. Non, oui, c'est ça finalement, oui. Je crois que notre
ça
foie
devient
gras,
accessible.
Voilà, et puis surtout de montrer les saveurs qu'on peut créer en cuisine, ces odeurs, ces saveurs. Et c'est ça, parce que ce public est très jeune en général. Et on sert ça dans des assiettes à carton. Et puis moi, ça m'a beaucoup plu de descendre un peu de ma tour d'ivoire, qui est très luxueuse, de montrer un peu qu'est-ce que aussi c'est le métier d'un palace. Montrer quatre produits, un tartare de tomates façon bœuf, vous avez des petits raviolis qui sont faits par Simonet et Maxime Frédéric qui va nous faire un petit chocolat. Et les gens, on a donné beaucoup de cœur pour le faire.
Et vous sortez de plus en plus de votre tour d'ivoire, Christian Lesquer, puisque vous avez un bistrot de gare dans la gare de Rennes.
Oui, vous savez pourquoi?
Bah non, c'est ce que j'allais vous demander.
Pourquoi? Parce que finalement, j'avais un de mes jeunes cuisiniers que j'avais fini de former. Il me dit, chef, je veux retourner à Rennes. Je lui dis, tu vas pas me quitter. Il dit, si, j'ai envie parce que mon épouse, elle veut revenir dans ses terres à Rennes. Et en même temps, vous avez la SNCF qui m'appelle en disant, mais est-ce que ça vous intéresse de tenir la gare de Rennes? Je lui dis, pourquoi pas? Et puis voilà l'aventure de revenir un peu dans mes sources pour aider ce jeune cuisinier à faire de la cuisine dans un bistrot.
Et vous rejoignez là un certain nombre de chefs de restaurants de gare, comme Éric Fréchon à la gare Saint-Lazare, oui, ou Michel Roth à la gare de Metz, ou encore Michel Rostand à la gare de Lyon, et Thierry Marx qui a ouvert aussi, il y a 3 ans, son bistrot Gare du Nord. Écoutez ce qu'il disait à propos de cette ouverture de restaurant.
Il y a une volonté pour ces lieux de transit, que ce soit les gares ou les aéroports, de faire redécouvrir l'artisanat, la main qui nous nourrit, la main qui travaille, et de créer ce phénomène de lien social lié autour des métiers dits de bouche. C'est ça qui me plaît dans la Gare du Nord, c'est ce croisement permanent de toutes les extractions sociales qui viennent découvrir une gastronomie, typiquement la gastronomie des buffets de gare. Je considère qu'il ne faut pas assigner des personnes à des endroits. Dans la vie, je trouve que l'assignation n'est pas quelque chose d'intéressant. Donc, ce qui me parle, c'est que tout le monde puisse se retrouver dans des lieux auxquels ils aspirent, que ce soit l'univers d'un grand hôtel, un palace parisien ou un buffet de gare. Pour moi, l'artisan a la même responsabilité d'excellence. Donc voilà, que je sois à la Gare du Nord avec Thierry Martin, qui est un excellent chef, qui a travaillé avec moi pendant 10 ans, ou un palace parisien comme le Mandarin Oriental, j'ai pas de blocage, j'ai vraiment pas de blocage. Pour moi, le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. Donc, je considère qu'il faut être performant et dans l'excellence dans un buffet de gare et dans l'excellence au Mandarin Oriental sur des registres d'écriture différents.
Un discours que vous pourriez tenir aussi, Christian
Lesquer. Voilà, c'est les mots de Christian Lesquer, c'est les mots des grands chefs qui descendent finalement pour l'artisanat, comme on parlait au début de l'émission. Je crois que c'est ça, c'est donner de l'amour, l'amour dans les assiettes, dans les plats.
Et l'amour dans les plats, on le donne jusqu'au dessert, jusqu'à la cerise sur le gâteau. Une cerise sur le gâteau qui est aujourd'hui proposée par notre partenaire hors série cuisine de Madame Figaro. Et c'est vous, Emmanuel Emery, qui nous faites cette chronique aujourd'hui sur les potagers de chefs.
Tout à fait, Caroline. Parce qu'au commencement, les chefs étaient dans leur cuisine et les maraîchers dans leur champ. Et puis est arrivé Alain Passard, qui a donné un grand coup de fourche dans l'univers carné de la haute gastronomie en décidant brutalement de retirer de sa carte 3 étoiles les plats de viande qui y avaient fait sa réputation. Et tout d'un coup, il met les légumes sur le devant de l'assiette. « Je veux que mes légumes, à l'instar des grands vins, fassent exulter leur terroir », dira-t-il. Mais pour arriver à nous faire rêver avec une betterave rôtie, il a fallu qu'il enfile ses bottes de caoutchouc et qu'il mette les mains à la terre. Il réhabilite un potager dans la Sarthe et aujourd'hui, il en possède deux autres dans l'Eure, un verger face au Mont-Saint-Michel. Dès le départ, le discours de Passard est clair. La production d'un légume d'exception passe par un respect total de la nature. Donc, labour en traction animale, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, des points d'eau pour les batraciens, des maisons de pierre pour les belettes et les hérissons, des buissons pour que nichent les oiseaux. Le but étant de favoriser toute cette vie animale qui évite les traitements dans un jardin.
Et c'est lui qui a ouvert la voie à toute une génération de chefs aux mains vertes, Emmanuel.
Tout à fait. Et ces chefs sont bien décidés à agrandir le champ des possibles d'une gastronomie durable et vertueuse. Car l'idée est bien là, Caroline. Revenir à une cuisine qui résiste aux trompettes de la mondialisation, qui se fout des saisons et dont l'addition kilométrique empeste le CO2. Aujourd'hui, le luxe ultime, c'est le local. Ainsi, au Georges V, et je parle sous l'autorité de Christian Lesquer, le chef Simone Zanoni a entamé une révolution de palais. Les fruits et légumes de sa table méditerranéenne, le Georges, poussent à 15 km de Paris, à Versailles, dans un potager raisonné et zéro traitement. Il a incubé des graines oubliées, mis en terre plus de 2000 légumes et sous serre 25 citronniers. Sept ruches s'occupent de la pollinisation et font le miel de l'hôtel. Mieux, désormais, tous les déchets du Georges sont convertis en compost.
Ah oui.
Et une équipe de 20 personnes en réinsertion participe aux travaux de jardinage. Quand on vous dit vertueux. Mais c'est la brigade du restaurant qui s'occupe de la cueillette. Je me suis rendu compte que la moitié de mes cuisiniers n'avaient jamais ramassé une courgette de leur vie, raconte Simonet. Nous avons perdu notre lien à la terre et du coup, la nourriture est devenue un piège. Pour résumer, au-delà des plats raffinés de l'assiette, en cultivant eux-mêmes leur jardin, ces grands chefs sont en train d'inventer une philosophie du bon qui fait le bien.
Christian Lesquer, vous n'avez pas de potager, mais vous cultivez des fines herbes.
Oui, justement, avec Monsieur Simonet, on essaie justement tous ensemble de travailler pour que cet hôtel puisse travailler justement dans les herbes, dans la puissance des saveurs. Finalement, la puissance des saveurs, c'est, comme disait Alain Passard finalement, au début, c'est d'avoir du concentré. De concentrer d'air. Donc, on adore ça. Donc, oui, c'est très important pour nous d'aller chercher justement nos plantes nous-mêmes.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, Christian Lesquer. Et puis donc, on vous retrouve, pour ceux qui peuvent se le permettre, donc au 5, dans le palace du Georges V à Paris. Merci beaucoup.
Merci bien. À bientôt.
Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Aïgoui Chichkoyan, Stéphanie Villeneuve, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis, aujourd'hui notre chroniqueuse Emmanuelle Emery et notre technicien du jour, Nasser Moussaoui. Tout ce petit monde vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Culture et dans un instant, ce sera le journal.